Nous recevons ce soir le professeur Jacques Vauclair, qui va vous faire une conférence sur l'intelligence de l'animal. Jacques Vauclair est docteur en psychologie expérimentale et génétique à l'Université de Genève. Il est chercheur au CNRS et professeur de psychologie du développement à l'Université de Provence. Ces livres, vous pouvez retrouver ces trois derniers livres en livre de poche. Il s'agit de L'homme et le singe, psychologie comparée aux éditions Domino, qui est paru en 1998, La cognition animale au PUF, dans la collection Que sais-je, en 1996, et enfin un livre qui porte le titre de cette conférence, L'intelligence de l'animal, au seuil, dans la collection Point Science, et qui est paru en 1995. Maintenant, nous retrouverons le professeur Jacques Vauclair.
Le sous-titre de ma leçon pourrait s'appeler « Le psychologue face à l'animal » et la question de l'intelligence de l'animal, elle a été puissamment reformulée il y a maintenant plus d'un siècle par Charles Darwin. Le hasard fait bien les choses. Nous allons fêter demain l'anniversaire de Darwin, qui est né en 1809. Darwin, qui est le père de l'évolution, a eu cette proposition extrêmement audacieuse pour son époque, puisqu'il pensait que l'hérédité n'allait pas concerner seulement les caractères physiques, la morphologie, que l'évolution n'allait pas agir uniquement sur la morphologie et sur les caractères physiques, mais aussi sur ce qu'on appelle provisoirement l'intelligence. Je vous proposerai tout à l'heure une définition plus précise de ce concept. Et cette proposition de Darwin est illustrée par cette phrase célèbre selon laquelle quiconque admet le principe général de l'évolution doit reconnaître que chez les animaux supérieurs, les facultés mentales, quoique si différentes par le degré, sont néanmoins de même nature que celles de l'espèce humaine et susceptibles de développement. Alors, cette formule, elle a permis le développement de tout un ensemble de disciplines, dont la psychologie comparée, dont je vais vous parler ce soir, et elle laisse entendre, cette formule, que finalement, les différences entre l'homme et l'animal seraient des différences relativement mineures, seraient des différences, comme l'exprime Darwin, plutôt de degré et pas de nature. Et je vais essayer de vous montrer, dans la première partie de mon exposé, à partir d'un certain nombre d'exemples qui sont tirés de recherches sur des espèces animales que je connais bien, qui sont les primates et avec lesquelles j'ai travaillé personnellement, je vais vous montrer que cette proposition est effectivement une proposition qu'on peut continuer à soutenir. Cela dit, le monde n'est jamais unique et Darwin lui-même avait pressenti qu'il pouvait y avoir, à côté de ces ressemblances, de cette similarité, des différences. Et dans le même ouvrage, La descendance de l'homme, il écrivait que l'homme est l'être unique auquel on puisse avec certitude reconnaître la faculté morale. Et cela constitue la plus grande de toutes les distinctions que l'on puisse faire entre les animaux et l'homme. Alors cette faculté morale, ça paraît un peu abstrait comme concept, peut-être même un peu théologique. Je vous propose à titre d'hypothèse de la remplacer par langage. Et donc, dans la deuxième partie, j'essaierai de montrer que l'élément de discontinuité entre l'animal et l'homme, et entre le primate et l'homme en particulier, justement, il tient à la question du langage. La discipline qui, à la suite de ces idées, a permis de faire des progrès considérables, c'est la psychologie comparée. Cette psychologie comparée a subi trois types d'influences. La théorie darwinienne, d'une part, le behaviorisme, qui est un courant de recherche américain avec des chercheurs comme Watson et comme Skinner, qui ont apporté une méthodologie rigoureuse qui n'existait pas à l'époque de Darwin, et la psychologie cognitive humaine, en particulier celle qui est née vers les années 1940-1950, qui a été très influencée par la cybernétique, par les théories de l'information, et qui a tenté finalement de modéliser, de retrouver dans des systèmes automatiques, à travers des programmes informatiques, des sortes de, d'équivalents, des représentations mentales du fonctionnement de l'intelligence humaine. Cette psychologie cognitive, d'ailleurs, était déjà une sorte de psychologie comparée, puisqu'elle comparait le fonctionnement humain avec le fonctionnement d'un automate, par exemple. Et ce programme, tel qu'il est réalisé aujourd'hui, finalement, avec cette forte implication de la psychologie cognitive humaine, a créé une sorte d'image nouvelle de l'animal que j'ai résumé sur la partie gauche de ce tableau ici, selon lequel l'animal est un acteur dans le processus adaptatif, acteur qui sélectionne et traite l'information en provenance de son environnement. Alors, vous voyez, il y a une idée là, selon laquelle l'animal ne subit pas uniquement les contraintes du milieu, mais qu'il va réagir à celles-ci, qu'il va construire finalement des systèmes pour s'adapter. Ces systèmes sont ceux que je vais décrire tout à l'heure, qui tourne autour de la capacité à se représenter l'environnement, que cet environnement soit l'environnement physique ou qu'il soit l'environnement social. Et cette psychologie comparée, avec ces interactions que j'ai indiquées ici avec la neurophysiologie, la neuropsychologie, la robotique, la linguistique, la philosophie, on pourrait ajouter finalement toute la nébuleuse des sciences cognitives, la psychologie comparée en faisant partie évidemment, a conduit finalement à développer une perspective selon laquelle on peut rechercher les précurseurs biologiques des conduites humaines et de façon plus générale construire un modèle animal du comportement humain. Alors, chaque fois que je fais un exposé, il y a une question qui arrive et j'ai décidé ce soir de répondre à cette question avant de pouvoir la traiter. C'est une réponse partielle que je propose et c'est le problème de la distinction entre intelligence et cognition. Alors voilà ce que je propose comme hypothèse de travail pour discuter de ces concepts. L'intelligence, on peut la définir dans un sens très large, elle est en quelque sorte synonyme d'adaptation. Toute espèce qui existe aujourd'hui, qui a pu se reproduire, qui a pu survivre, on peut dire qu'elle est intelligente. Alors, vous voyez, c'est une définition extrêmement vaste qui n'est pas très, très heuristique. Et je vous proposerai une définition plus opérationnelle que j'ai indiquée ici, au sens où l'intelligence va me servir à évaluer une performance. Et à titre d'exemple, je voudrais prendre celui des mécanismes de navigation, de l'orientation spatiale chez les oiseaux migrateurs. Alors, sur un fond ici de Stern Royal, j'ai indiqué les différents mécanismes qui sont supposés intervenir dans l'orientation spatiale de ces oiseaux. Ces mécanismes sont nombreux. Vous avez le pilotage, vous avez l'utilisation, le traitement des courants d'air, des vents et des odeurs, l'utilisation de configurations visuelles comme les étoiles, l'utilisation de champs magnétiques qui a été démontré en particulier chez les pigeons voyageurs, l'utilisation d'une boussole solaire, tout un ensemble de mécanismes qui, vous en conviendrez, s'il fallait les implémenter dans un robot, paraîtraient particulièrement complexes. Donc on peut dire que ces mécanismes sont intelligents, sauf que cette intelligence, elle est essentiellement caractérisée par le recours à des systèmes qui sont préprogrammés dans le système nerveux de l'oiseau en particulier, et qui sont spécifiques à un domaine. Cette spécificité va faire, par exemple, que si l'oiseau a donc des mécanismes très sophistiqués pour s'orienter dans l'espace, il ne va pas utiliser ces mécanismes dans d'autres activités, comme par exemple pour chercher de la nourriture. Donc, si vous voulez, cette intelligence au sens d'évaluation d'une performance, c'est une intelligence qui est située, et je pense que cette caractéristique, finalement, permet de comprendre ce qu'on entendra par cognition. Alors, cognition, je la définis comme des moyens au service d'un but, et de façon plus générale, comme la mise en œuvre de processus de traitement de l'information et d'apprentissage. Cette cognition, elle permettra d'ajuster le comportement en fonction des conditions changeantes de l'environnement, Et du coup, elle se distinguera de l'utilisation des systèmes préprogrammés que j'indiquais tout à l'heure par certains critères, et c'est important d'avoir des critères quand on fait de la recherche parce qu'on peut mieux dissocier les phénomènes. Ces critères sont au nombre de 3, la flexibilité, la nouveauté et la généralisation. La flexibilité veut dire simplement que l'animal va s'adapter aux conditions, aux changements dans son environnement. La nouveauté, ça veut dire qu'il ne va pas utiliser un système qui est précodé dans son cerveau, mais construire une réponse nouvelle à un problème donné. Et la généralisation veut dire qu'une réponse nouvelle à un problème donné sera susceptible de se généraliser à des domaines semblables ou éventuellement différents de ceux sur lesquels ils ont été initialement construits. Alors, je voudrais illustrer l'existence, la mise en évidence de processus cognitifs à travers des exemples. J'aimerais avoir la diapositive, s'il vous plaît. Je vais donc vous parler de 3 exemples qui sont tirés des primates non humains. Et je pense qu'il est utile que je vous donne une très rapide indication sur l'organisation de ces espèces. Vous avez en haut les 3 espèces de pongidés, orang-outan, gorille, chimpanzé. On va parler des chimpanzés. Vous avez ensuite le gibbon, un peu plus loin, un peu plus bas, si vous voulez, les cercopithécidés, auxquels appartiennent le groupe des macaques et des babouins. On va parler de ces espèces. Vous avez également un ensemble de singes, 10 singes du Nouveau Monde. Ce sont des singes américains. Avec par exemple le singe hurleur, les attelles, le singe capucin fait partie des singes du Nouveau Monde, et puis plus bas, c'est-à-dire des animaux qui se sont, un groupe qui s'est séparé il y a très longtemps, ce sont les singes de Madagascar et les lémuriens. Donc les exemples que je vais vous donner vont concerner des espèces qui sont sur le plan de l'échelle phylogénétique relativement proche de l'espèce humaine, d'où vous allez voir des performances cognitives qui sont, je pense, particulièrement surprenantes et qui nous interpellent quant à cette fameuse différence entre l'animal et l'homme. Alors, un exemple que je voudrais choisir, il va concerner ce qu'on appelle l'estimation de la numérosité. De façon générale, ce qui se définit sous cognition numérique, on peut arrêter la diapo, merci. Cette cognition numérique, en fait, va concerner les compétences de macaques, en l'occurrence, à évaluer des quantités numériques. Si vous voulez, il s'agira de, en gros, si on devait dire le problème en 2 mots, savent-ils compter, sont-ils capables d'évaluer des quantités d'objets et dans l'exemple que je vais vous montrer ici, de les ordonner. Cette question n'est pas une question abstraite, puisque non seulement avoir des informations sur ces compétences permettra justement, en particulier, de répondre à cette fameuse question des précurseurs biologiques, mais dans la nature, savoir évaluer des quantités est un comportement dont on voit immédiatement l'intérêt adaptatif. Par exemple, évaluer le nombre de fruits globalement, bien entendu, qui figure sur un arbre. Par exemple, dans une relation d'interaction sociale, agressive, par exemple, il est tout à fait de l'intérêt d'un individu de savoir combien il a d'alliés et combien il a d'adversaires pour choisir la meilleure stratégie afin de se sortir de la situation. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème abstrait, c'est un problème qui a une, je dirais, un sens biologique très évident. Cela dit, l'étude dont je vais vous parler ici est une étude qui a été réalisée en laboratoire, mais elle a l'avantage d'apporter des informations, évidemment, qui sont extrêmement précises et bien contrôlées. Le principe général est le suivant. On va montrer à ces macaques rhésus qui sont familiarisés avec des ordinateurs qui comprennent des écrans tactiles, un ensemble de planches, dont vous avez des exemples ici, qui comportent des séries d'objets. En fait, on va leur montrer 4 cartes. Ces cartes sont présentées dans le désordre. Sur une carte, il y a un élément. Sur l'autre carte, il y en a 2. Sur la troisième, il y en a 3. Sur la quatrième, il y en a 4. Et on va apprendre à ce macaque, à appuyer, à avoir un contact avec chacune de ces cartes selon l'ordre ascendant 1, 2, 3, 4. Ce qui est, le problème est relativement simple, sauf qu'on a fait en sorte que la réponse soit fondée sur le nombre d'éléments et pas sur des critères accessoires, comme par exemple la couleur, comme par exemple la taille, comme par exemple la surface occupée, comme par exemple la nature des images qui sont présentées. Autrement dit, ces facteurs-là sont contrôlés et la seule manière de répondre consiste à répondre selon l'ordre ordinal des objets qui figurent sur ces cartes. Alors, Rosenkranz et MacDuff, ce sont les deux macaques qui ont été testés par Terrace, et Brannon et Terrace dans une recherche qui a paru en 1998. Et vous avez ici, pour un pourcentage de 80%, l'entraînement. Vous voyez que la ligne de réponse au hasard est autour de 5%. Donc, très rapidement, ces macaques ont réussi à apprendre la tâche. On les a ensuite testés, et je vous renvoie à mon critère de généralisation de tout à l'heure, avec des ensembles nouveaux. Autrement dit, on leur a présenté des cartes qu'ils n'avaient pas vues préalablement, et vous voyez qu'ils ont des performances qui sont comparables à celles qu'ils avaient à la fin de l'entraînement. Autrement dit, ils ont réussi à généraliser leur règle ordinale sur des cartes représentant des ensembles nouveaux. Dans une dernière partie de cette expérience, qui est cruciale par rapport aux compétences qu'on a mises en évidence chez ces animaux, on s'est demandé si cette règle ordinale qu'ils avaient ainsi constituée pouvait se généraliser à des ensembles d'objets au-delà de ceux qu'ils avaient appris. Et donc, on a réalisé une série de combinaisons. On leur a montré soit des paires familières 1, 4 qu'ils avaient vues précédemment, soit des paires familières mélangées avec des paires nouvelles, les paires nouvelles étant entre les chiffres 5 et 9, soit carrément des paires nouvelles, c'est-à-dire des ensembles d'objets qui étaient totalement inconnus préalablement pour ces deux macaques. Et vous voyez que les réponses pour les paires familières étaient supérieures à 90%, également 90% lorsque l'on combinait les paires familières et les paires nouvelles, et supérieure à 75% pour des paires entièrement nouvelles. Chaque paire a été présentée une seule fois, et donc ce qui est remarquable, c'est l'apparente facilité avec laquelle la règle ordinale a été appliquée à ces ensembles d'objets. Un phénomène intéressant est apparu également dans cette étude. Il est intéressant parce qu'il correspond à ce que font les sujets humains lorsqu'ils sont confrontés à ce type de tâches. C'est ce qu'on appelle le phénomène de distance numérique, l'effet de distance numérique. Alors cet effet traduit la chose suivante. Quand je vous demande de décider si un nombre est plus grand que l'autre, eh bien vous allez être plus rapide et vous allez être plus précis lorsque la distance numérique sera importante. Par exemple, si je vous demande de comparer 2 et 8, vous allez rapidement me dire que 8 est plus grand que 2, alors que vous aurez besoin de plus de temps pour comparer 2 et 3. Il s'avère que cet effet de distance est apparu également dans les performances. Ici, vous avez le pourcentage de réponses correctes chez les deux rhésus, Rosenkranz et MacDuff. Et vous voyez que plus la distance numérique est grande, la distance de 8 ici correspond à la paire 1 et 9, eh bien, on a près de 100% de bonnes réponses, alors qu'on a 80% de bonnes réponses seulement lorsque la différence numérique est égale à 1. Donc, vous voyez, cet effet qui est très intéressant, parce que très robuste. Par exemple, les mathématiciens sont sensibles à cet effet de distance numérique. Il est même tellement fort que lorsque on vous demande, par exemple, quelle est la différence entre 7 et 8, eh bien, même si vous avez les chiffres devant vous, vous n'allez pas répondre au niveau symbolique, vous allez recoder, en fait, les chiffres en quantité et les comparer sous cet effet de distance. Et donc, c'est un phénomène qui fait penser, finalement, que dans cette expérience, on a là, vraisemblablement, la mise en œuvre d'un système de traitement qui est en grande partie comparable à celui qu'on décrit chez l'homme dans des opérations qui ne sont pas très compliquées, je sais, sur le plan arithmétique, mais quand même, qui laisse entendre que l'animal a créé une sorte de... Alors, a-t-il un algorithme de comptage Le détail de comment se fait le procédé, évidemment, n'est pas connu, mais toujours est-il que le phénomène, tel qu'il est démontré ici, je crois, est très convaincant. Alors, je passe à un autre exemple, et cet autre exemple va concerner, cette fois-ci, un chimpanzé, et en particulier la mémoire spatiale chez le chimpanzé. Alors, j'ai intitulé cette recherche « Des chimpanzés voyageurs de commerce ». Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, imaginez que des chimpanzés vivent dans un enclos d'environ 4000 mètres carrés et qu'ils sont testés individuellement. Ils sont emmenés dans cet enclos par un expérimentateur qui suit un autre expérimentateur qui, lui, va dissimuler de la nourriture en 18 endroits différents. Le chimpanzé observe, parcourt le même chemin que l'expérimentateur qui dissimule la nourriture, puis ensuite, on le ramène au point de départ. Le point de départ est indiqué ici sur mon transparent par le point D. Et on va ensuite lâcher le chimpanzé qui a simplement observé la scène et on s'intéressera à recueillir son trajet dans cet enclos. Autrement dit, on va recueillir ses déplacements. Et la surprise, ça a été d'observer, un, que le chimpanzé était capable de retrouver la plupart, évidemment, des objets qui avaient été camouflés, mais surtout qu'il le faisait en parcourant l'espace selon un trajet qui était différent que celui qu'il avait vu effectuer précédemment. Et en vérité, d'où le titre de mon transparent, « Voyageur de commerce », parce que le chimpanzé a utilisé une stratégie d'optimalité, de moindre distance, et vous ne le voyez pas très bien, mais par exemple, dès le départ, il s'est emparé du premier objet qui pourtant correspondait à la 15e position, au cours de la phase de dissimulation initiale. Autrement dit, dans cet environnement, le chimpanzé a organisé ses déplacements sous une forme efficace, sous une forme dans les termes de la... s'il fallait recoder ça en termes de géométrie, eh bien, ce serait équivalent à un traitement de type euclidien qui tient compte des angles et des distances entre ces différents lieux. Autrement dit, on a là un exemple de représentation spatiale qui est particulièrement instructif parce qu'en plus, il a lieu dans des conditions de relative... il y a peu de contraintes, on est dans un grand espace et ce sont des conditions de semi-liberté. Alors, j'en viens à un troisième exemple et vous me permettrez à cette occasion, ce sera l'occasion pour moi de vous présenter une recherche que j'ai conduite au Centre de recherche en neurosciences cognitives à Marseille avec mes collègues Joël Fagot et William Hopkins. Nous nous sommes intéressés à un problème qui a beaucoup excité les psychologues il y a une vingtaine d'années et qui continue à être d'actualité. C'est le phénomène dit de la rotation mentale. La rotation mentale, qu'est-ce que c'est ? Alors, j'aurais souhaité vous soumettre un petit test de rotation mentale. Si vous arrivez dans les conditions de visibilité à traiter ces objets, eh bien, je vais vous les laisser quelques secondes. Et je vous demanderai de comparer, il y a trois paires d'objets, de comparer les éléments au sein de chacune de ces paires. Et vous allez vous dire si les objets de la paire A sont identiques ou pas, si les objets de la paire B sont identiques ou pas, et les objets de la paire C sont-ils identiques ou pas. Alors, je ne sais pas quelle décision vous avez fait, je ne vais pas vous interroger, mais je pense que la plupart d'entre vous ont vu qu'il y avait identité pour les paires A et B, mais pas pour la paire C. Et comment avez-vous fait pour décider qu'il y avait identité ou pas identité ? Vous avez fait ce qu'on appelle une rotation mentale, c'est-à-dire vous avez fait tourner dans votre tête une sorte d'équivalent de la rotation physique, les deux formes, pour les mettre en correspondance, en congruence, l'une avec l'autre. Ce qui est remarquable dans ce type de traitement, et ce qui a beaucoup intéressé les psychologues, c'est de mettre en évidence une relation quasi parfaite, finalement, entre le temps qu'il faut, le temps de décision, qu'on appelle le temps de réaction, pour décider de l'identité ou de la non-identité de ces objets, avec la rotation de ces objets. Vous voyez que pour une rotation de 180 degrés, il faut environ 4 secondes et demie. Il faut 3 secondes pour une rotation de 120 degrés. Et donc, vous voyez, il y a une magnifique progression. Cette progression Et elle est intéressante parce qu'elle fournit une sorte de variable continue qui permet donc de mesurer, de chronométrer en quelque sorte l'activité mentale. Cet effet de rotation fonctionne également pour des objets familiers. En voici un exemple qui concerne des caractères alphabétiques, pour peu que ces caractères soient asymétriques. Alors, l'expérience, en fait, consiste à faire comparer, par exemple, on va montrer un R qui est en position normale, puis on demandera, en montrant, par exemple, un R ici qui est tourné à 180 degrés, on proposera ce R tourné avec, à 180 degrés avec un R qui est l'image en miroir de celui-là. Et donc, un seul de ces R peut, par rotation, permettre de revenir au R initial. Et donc, cet effet, ce phénomène, il permettra, justement, vous voyez qu'on a la courbe ici de résultat qui est comparable à celle que j'ai montrée tout à l'heure, à savoir une belle augmentation de, disons, du temps de réaction avec, avec la rotation de ces objets. Alors, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'à partir de ce problème très intéressant qui indique que notre pensée, nos processus cognitifs reposent sur des systèmes en particulier de représentation visuelle, d'image mentale, comment est-ce qu'on peut passer, si je puis dire, à l'acte dans une étude avec l'animal ? L'animal ne pouvant pas, n'étant pas en mesure de parler, comment va-t-on s'y prendre ? Alors, l'étude a été réalisée avec des singes babouins et nous l'avons fait dans un contexte qui est assez particulier. Figurez-vous que les babouins du Cénérès sont des babouins modernes, si je puis dire. Vous les voyez ici dans une situation avec un poste de travail où ils viennent très volontiers travailler une heure par jour. Ils ont en face d'eux un système qui permet, en fait, c'est pas une souris, mais c'est une petite manette de jeu, un joystick, qu'ils actionnent et dont les mouvements vont correspondre à des déplacements du curseur sur l'écran d'ordinateur. Ils ont été, je vous passe évidemment l'entraînement qui n'a pas été toujours facile, mais toujours est-il qu'un certain nombre d'animaux ont réussi à apprendre cette tâche et cet apprentissage nous a permis de leur proposer plusieurs problèmes, dont celui de la rotation mentale. Alors, nous l'avons fait de la manière suivante. Préalablement, nous avons utilisé une procédure dite d'appariement à un modèle qui consistait à présenter un point de fixation au centre de l'écran, le curseur qui est représenté par le cercle jaune ici, et le singe devait inscrire ce cercle dans le point de fixation. Ensuite, on lui présentait une forme visuelle. Ce n'est pas l'exemple de la rotation mentale, je le mets dans des buts de description. Par exemple, un R, puis on lui présentait de part et d'autre du curseur, donc on éteignait le R, ce R à nouveau, qui était en concurrence avec une autre forme, un X par exemple, que j'appelle ici stimulus négatif, le R étant stimulus positif, et la tâche consistait pour le singe à désigner avec son curseur, à pointer avec son curseur, la forme qui était appareillée, d'où le nom de cette procédure, à l'objet qu'il avait vu précédemment. Lorsqu'il répondait correctement, eh bien, il était récompensé par une boulette de nourriture. Alors, on s'approche du problème, mais on n'a pas encore le paradigme de la rotation mentale. Eh bien, nous l'avons fait de la façon suivante. Nous avons travaillé avec des caractères alphabétiques. Nous avons montré un F, par exemple, puis, juste après, un F qui, ici, qui a subi une rotation de 120 degrés, vous avez trouvé que c'était celui-là, et un autre qui est l'image en miroir du premier, qui ne peut pas, par rotation, permettre de retrouver la forme d'origine. Donc le singe répond, s'il est bon, il va descendre son curseur sur cet objet et reçoit sa récompense. Dans un but comparatif, des étudiants en neurosciences ont servi de sujet contrôle. Ils n'ont pas été mis dans la cage, rassurez-vous, mais à part ça, les conditions étaient strictement identiques, le joystick était le même et les stimulus, les conditions d'expérience sont strictement rigoureuses. Alors, les résultats ont été très surprenants et devraient en fait nous rendre modestes, comme vous allez le voir dans un instant, puisqu'on observe la chose suivante. Alors, d'abord, on était très contents, à savoir que lorsqu'on a regardé les résultats pour les sujets humains, on a validé notre procédure, puisqu'on a l'effet de rotation mentale attendu. Donc, on s'est dit, on est sur la bonne voie, on a là quelque chose qui est C'est bon signe, avec des temps qui correspondent à ceux qui sont rapportés dans les autres études, dont celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Les résultats du babouin, eux, nous ont à la fois satisfaits et plongés dans une sorte de perplexité. Ils nous ont satisfaits parce qu'on a également obtenu une courbe de rotation mentale. Vous voyez qu'en fonction de la vitesse, de la rotation des objets, on a bien une augmentation du temps. Mais ce qui est très surprenant, c'est l'échelle avec laquelle tout ça s'est réalisé. Le singe a besoin de moins de 100 millisecondes pour résoudre le problème, alors que l'homme, lui, le pauvre, il lui faut près d'une seconde pour résoudre ce problème. Et donc, la conclusion statistique, c'est que les babouins sont 11 fois plus rapides que l'homme dans ce type de tâche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons pour lesquelles on a cette différence. Il est sans doute probable qu'une de ces raisons tient au fait que ces objets visuels ne sont pas des objets quelconques pour nous. Quand on voit un F, ce F, on s'attend à ce qu'il soit en position normale, et donc on doit en faire un traitement sémantique. Je ne pense pas que les babouins soient gênés par le fait que les F soient de travers, et par le fait que le F fait partie de l'alphabet et qu'on l'écrit d'une certaine façon. Donc, des étapes de traitement sont vraisemblablement pas nécessaires. On peut faire d'autres hypothèses aussi. Par exemple, le fait que le babouin n'a pas besoin de tourner l'ensemble de la forme, mais seulement une partie. Enfin, il y a toute une série de raisons qui peuvent éventuellement expliquer cette différence, mais vous voyez qu'elle est extrêmement forte. Et quoi qu'il en soit, quelles que soient les raisons de ces différences, l'effet reste présent et met en évidence, une fois de plus, et c'était mon troisième exemple sur lequel je vais m'arrêter, l'existence de systèmes de représentation qui sont, tout au moins chez les primates, mais je pourrais, si j'avais le temps, vous donner des exemples qui concernent d'autres espèces animales, des oiseaux, des rongeurs, etc., vous montrer que des processus de représentation qui font appel à ces critères de qui répondent à ces critères de flexibilité, de nouveauté et de généralisation, sont effectivement à l'œuvre dans des traitements cognitifs. Voilà, alors je passerai maintenant à la deuxième partie qui va concerner la proposition d'une discontinuité, et j'aurai besoin pour cela des diapositives. Je vais vous parler très brièvement des recherches qui ont concerné les capacités linguistiques chez les primates. Et tout d'abord, pour vous montrer ici une représentation de l'appareil phonatoire de l'homme et du singe, du chimpanzé en particulier, on sait, pas depuis très longtemps, la démonstration anatomique n'a pas été apportée très longtemps, mais on sait que les chimpanzés sont incapables de produire les sons de la parole humaine, pour la raison que, en fait, en particulier, leur larynx est particulièrement haut et que la cavité buccale qui permet de former les sons, des langues humaines, n'est pas adaptée à ce type de production. D'où l'idée, diapositive suivante, s'il vous plaît, d'où l'idée que on pourrait leur apprendre un système qui n'est pas basé sur l'oralité, mais qui est basé sur les gestes, le langage des signes, comme on l'appelle, qui est utilisé dans beaucoup de pays par les sourds-muets. Et vous voyez ici le fameux chimpanzé Washu, qui a été étudié en particulier par Alan et Beatrice Gardner aux États-Unis, il y a maintenant quelques années, qui va imiter le geste boire, drink, qui lui est démontré par son professeur. Prochaine diapositive. Un autre projet avec le chimpanzé Nim, qui est ici dans une séquence où il va indiquer Nim, moi, hug, ça veut dire embrasser, le chat, la troisième image, et vous voyez le résultat, apparemment le chat n'est pas très content de ce qui lui arrive, mais dans cette situation, ce chimpanzé a pu produire une séquence qui est relativement explicite sur le plan, sur le plan de la gestuelle pour indiquer donc son intention. Alors, le contexte, vous voyez ici, est un contexte très précis, c'est un contexte où il s'agit d'exprimer une demande, et j'insiste là-dessus parce que je pense que les contextes d'usage des signes linguistiques sont différents de ceux-là. Prochaine diapo. Un autre procédé qui a été utilisé également dans ses travaux sur le langage concerne l'utilisation de symboles graphiques. Ces symboles graphiques étaient constitués de ce qu'on a appelé des lexigrammes, des formes dont la signification était arbitraire, si vous voulez, par rapport au contenu qui était signifié. Par exemple, voilà le chimpanzé Lana et voilà le signe, le petit symbole graphique Lana qui était utilisé. Juste à côté, on a le signe avec ce losange inscrit dans un cercle pour manger. Donc vous voyez qu'on a en fait constitué une sorte de vocabulaire. Ces lexigrammes fonctionnent un peu comme les idéogrammes dans l'écriture chinoise. Et ces systèmes servent à échanger, finalement, entre le chimpanzé, ici, et l'expérimentateur, qui donne des consignes et qui servent au chimpanzé à exprimer des demandes. Par exemple, Lana mangeait M&M, et le fait d'appuyer la séquence correcte correspondante à cette demande eh bien, est suivi, évidemment, de la satisfaction de la dite demande. Prochaine diapositive. Ici, vous devez deviner le fameux kanzi, ce bonobo. Les bonobos constituent une espèce particulière de chimpanzés, qui sont des chimpanzés nains, qui ont gardé des caractères néoténiques. Et vous voyez ici kanzi avec son professeur, Sou Savage Rimbaud. Alors, il est devant une version élaborée et moderne de ces lexigrammes que vous voyez ici. La prochaine diapositive vous montrera plus de détails. Donc, ce sont en fait les mêmes lexigrammes, mais qui sont cette fois-ci inscrits sur des systèmes d'écran tactile. Et donc, Kanzi va produire des séquences en appuyant sur ces différentes touches. Et selon l'ordre correct ou non avec lequel il va produire ses séquences, eh bien, il sera récompensé ou il pourra réaliser les actions qu'il aura demandées exclusivement à travers ce procédé, comme par exemple Kanzi veut sortir, s'il vous plaît, parce qu'il faut être poli dans ces laboratoires américains. Et lorsqu'il a donc appuyé cette séquence de touches dans l'ordre correct, eh bien, on lui laisse la possibilité de sortir et d'aller retrouver ses camarades. Vous voyez que la mode du portable a aussi envahi ce domaine de recherche, puisque vous avez là un écran tactile portable que Kanzi peut emmener avec lui lorsqu'il fait des balades en forêt. Et ça lui permet, donc toutes ces interactions en fait, avec l'expérimentateur sont médiatisées à travers ce système. Alors la question qu'on se pose, que se sont posés les chercheurs, vous savez que ces travaux que la plupart d'entre vous connaissent ont eu un succès médiatique considérable, c'est s'agit-il d'un langage? Et s'agit-il surtout d'un langage qui partage les caractéristiques avec le langage humain? Mon sentiment, et je vais essayer d'aller au-delà en vous donnant des arguments, c'est que ces systèmes de communication interspécifiques ne sont pas du langage et qu'ils ne partagent pas un certain nombre de caractéristiques fondamentales du langage humain. Et pour montrer finalement cet effet, je vais prendre un exemple qui concerne de la communication spontanée. Et je reviendrai ensuite à ces travaux sur les singes. Donc on peut arrêter et je vais vous montrer ici un exemple qui concerne, il est intéressant parce qu'il concerne de la communication spontanée chez des singes africains qui sont les singes vervés ou singes verts. Ces singes, comme beaucoup d'espèces animales, ont des cris d'alarme qui sont spécifiques à chaque classe de prédateurs. Ainsi, lorsque le verver à un prédateur terrestre, ici, comme un léopard, il va émettre un cri qui conduira les congénères à s'enfuir dans les arbres. Lorsque un autre prédateur est en vue, comme l'aigle par exemple, l'émission du cri va conduire les congénères à lever la tête, scruter le ciel et prendre les mesures appropriées pour se protéger. Donc on a un cri d'alarme ici à la... un prédateur terrestre, on a un cri d'alarme à l'aigle, et on a un troisième cri d'alarme qui concerne un prédateur également terrestre, qui est le python. Alors, dès qu'un python a été observé, eh bien, on examine le sol, et là encore, généralement, on s'enfuit dans les arbres. Chacun de ces signaux a des caractéristiques physiques précises. Il n'y a pas de confusion. Lorsque un signal est émis, les congénères, adultes en tout cas, réagissent de manière adaptée et donnent la réponse qui, en fait, leur permettra de sauver leur vie. Donc là, on pourrait se demander, à partir du moment où ces cris ont des caractéristiques précises, qu'ils se réfèrent à un objet extérieur, en l'occurrence un prédateur, sont-ils équivalents aux mots de la langue que j'emploie en ce moment ? Alors, je vais faire l'analyse, si vous voulez bien, de ce signal par rapport au langage et essayer de montrer les différences entre les deux. J'ai indiqué ici les trois cris du verver qui correspondent aux trois types de prédateurs. Vous voyez qu'il y a une relation directe entre le cri et le prédateur, et que les cris ne sont pas organisés entre eux sur cet axe, ils sont simplement ajustés, ils sont simplement produits de manière précise en fonction de la nature de l'objet qu'il s'agit d'indiquer. À la différence justement de la parole, alors j'ai appelé ça cri de verver, parole d'homme, parce qu'il me semble qu'il y a des différences très importantes. Une de ces différences, c'est que les signes du langage sont articulés les uns par rapport aux autres. Ils sont articulés, en fait, selon deux aspects qu'on appelle les signifiants et les signifiés. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ce que l'on observe, donc, c'est que dans les systèmes de cette communication animale, et je généralise, si vous voulez, mon discours aussi au système du langage chez les chimpanzés que j'indiquais tout à l'heure, on a précisément une absence d'articulation. On a aussi une caractéristique très importante, c'est que les signes de la langue ne sont pas reliés directement aux objets, mais ils sont reliés secondairement aux objets, ce qui est indiqué ici, et que les signes prennent leur sens dans des rapports réciproques entre les signifiants et les signifiés, et dans des rapports d'opposition et de contraste avec l'ensemble des signes. Pour dire ces choses peut-être plus simplement, voici une analyse que je vous propose pour rendre compte de la particularité du signe par rapport à l'arbitrarité, que je pourrais dire simple, qui est en œuvre dans les systèmes de signalisation des animaux, où vous avez, je reviens peut-être maintenant à mon exemple du chimpanzé. Un chimpanzé va utiliser un substitut qui est un symbole graphique pour indiquer, pour renvoyer à un objet qui est un objet bien identifié, une bouteille de coca, que sais-je. Et vous voyez qu'il y a effectivement arbitrarité entre l'objet et le substitut. On a vu tout à l'heure que les symboles graphiques n'ont pas de rapport physique, de ressemblance, d'iconicité avec les objets qu'ils désignent. Simplement, la relation entre objet et substitut est une relation simple qui nécessite seulement la construction d'une seule représentation, alors que les signes du langage, et on le sait depuis De Saussure, ils ont cette caractéristique qui est celle de l'arbitrarité dite radicale. Alors, elle est radicale parce que lorsque on a un objet et qu'on va le désigner verbalement à l'aide d'un signe linguistique, il sera nécessaire de réaliser deux représentations. Une représentation entre l'objet et le signifiant, c'est-à-dire qu'il faudra se représenter le mot, et il faudra également se représenter l'objet dans son rapport avec le signifié, c'est-à-dire le concept, et ce sont ces deux représentations, vous voyez que c'est plus compliqué, dont l'une d'ailleurs est individuelle alors que l'autre a été définie par des conventions sociales, ce sont ces deux représentations qui vont fonder, en fait, la nature de ce critère d'arbitrarité qui n'est pas présent dans les systèmes de communication des animaux, que ces systèmes soient spontanés ou que ces systèmes soient appris. Et il y a d'ailleurs d'autres distinctions que je peux vous indiquer très brièvement. En vérité, il y a des distinctions de structure et des distinctions de fonction. Les distinctions de structure sont relativement bien connues. Les différences de fonction qui me paraissent aussi importantes sont moins connues. Alors j'en viens aux différences de structure. J'ai parlé de l'arbitrarité tout à l'heure. Il y a également le phénomène de la double articulation, dont on n'a pas trouvé d'équivalent dans les systèmes de communication animale. La double articulation renvoie au fait que le langage a toujours deux aspects. Il est, par exemple, constitué d'unités de base sans signification, qu'on appelle les phonèmes, qui, en se combinant, vont créer les premières unités de signification, qui sont les mots. Hein, les mots sont faits de phonèmes. Ensuite, cette unité mot va être constituant d'une articulation supérieure. Les mots vont se combiner pour former les phrases, et éventuellement, les phrases vont se combiner pour former le discours. Donc vous voyez qu'il y a en fait une organisation très précise, que cette organisation elle a des particularités, en particulier le fait de permettre de générer une infinité de signes, justement en particulier la double articulation, va permettre une productivité extraordinaire du langage. Il y a enfin une troisième caractéristique, c'est que les signaux produits par les animaux ne sont généralement s'épuisent dans la situation, dans l'instant présent, alors que les signes du langage, eux, vont permettre de désigner des objets qui sont éloignés dans l'espace et dans le temps, et également d'ailleurs désigner des objets ou renvoyer à des objets qui n'existent pas. Donc il y a là toute une richesse qui est absente des systèmes de la communication animale. Et enfin, ces différences de fonction qui, je crois, sont très importantes parce que ces différences de fonction sont déjà très présentes dans l'ontogenèse, et l'ontogenèse humaine en particulier, et elles peuvent très simplement se décrire selon un axe impératif-déclaratif. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signaux linguistiques, les premiers mots des enfants, par exemple, ils ont d'abord une fonction dite impérative ou injonctive qui s'exprime par des demandes. Je veux ça, on va indiquer un objet qui est convoité. Mais très vite, les premiers signaux vont en fait devenir déclaratifs, c'est-à-dire qu'ils vont aller au-delà d'un simple contexte instrumental de demande, de satisfaction de besoins, pour apporter une information sur le monde, pour être en fait porteur de signification sur l'environnement. Quand un enfant dit, par exemple, « avion », qu'il pointe vers le ciel et qu'il attire l'attention de sa mère, c'est pour partager avec elle le fait qu'il y a un objet, que cet objet a un nom, que c'est un avion. Et ces systèmes déclaratifs, cette fonction déclarative des signaux, eh bien, je pense qu'elle est le propre de l'homme, et je n'ai pas trouvé dans la communication animale, dans la communication spontanée et apprise, un usage réellement déclaratif des signaux de communication. Cela dit, ce n'est pas grave, parce qu'il s'avère que pour répondre aux demandes biologiques, pour indiquer qu'on a trouvé de la nourriture, par exemple, pour se protéger des prédateurs, dans les comportements de reproduction, le système impératif, injonctif, fonctionne tout à fait, et biologiquement, en vérité, il n'y a pas de raison pour qu'un système déclaratif se soit superposé. Alors, je crois que je vais m'approcher de ma conclusion. Alors j'essaie de faire une sorte de résumé de ce que j'ai dit. Donc, si vous voulez, l'image qui me semble être aujourd'hui la plus généralement partagée par la plupart des chercheurs, c'est que les grandes fonctions de perception, les grandes fonctions de mémoire, sont réalisées par des systèmes nerveux qui sont en grande partie analogues entre les espèces animales. Après tout, toutes les espèces sont soumises aux lois de Newton. Nous avons, êtres humains, des problèmes finalement pas si éloignés de ceux des rats dans les labyrinthes ou des chimpanzés de Menzel. Quand nous devons nous retrouver dans l'espace, il est important qu'on soit attentif à des repères, qu'on soit capable d'organiser nos trajets. Il faut qu'on en ait une représentation, que cette représentation soit stockée en mémoire. Donc il y a tout un, si vous voulez, je dirais, il y a tout un ensemble de fonctionnements de base qui sont vraisemblablement communs et qui sont partagés entre toutes les espèces, je pense. Je peux généraliser maintenant mon discours et parler de toutes les espèces animales. À côté de ça, je dirais, en plus, sachant que les fonctions biologiques se contentent vraisemblablement de ces systèmes, eh bien, il est l'espèce humaine, probablement parce qu'elle a, à un moment donné, créé un environnement où la culture est devenue une sorte de nécessité de construire de nouveaux outils, où elle a développé des mémoires extérieures, par exemple, ce que n'ont pas les animaux. Des contraintes diverses ont donc fait émerger un ensemble de systèmes, de codes de communication, essentiellement, dont le langage est le fleuron, mais on pourrait parler également d'autres aptitudes, comme par exemple l'attribution de savoir, l'attribution de croyances, la conscience aussi, qui me semble être l'intentionnalité, qui me semble être des fonctions dérivées du système linguistique. Et ces caractéristiques-là ne sont en effet pas partagées par les espèces animales. Alors j'ai commencé avec une citation, je voudrais terminer avec une citation pour finalement vous rendre attentif aux challenges extraordinaires qui sont représentés par ces travaux. Et d'abord, je voudrais commencer par ce qui est sans doute une boutade de Darwin, toujours, qui écrivait dans ses carnets à propos du philosophe empiriste John Locke, qui affirmait que les animaux étaient dépourvus de tout pouvoir d'abstraction. Darwin a écrit « Celui qui comprendra les babouins aura fait plus pour la métaphysique que Locke. » Et effectivement, ça vous montre bien le challenge extraordinaire le chemin qui nous reste à parcourir finalement pour essayer d'avancer dans la compréhension de ces organismes. Et enfin, je voudrais clore par cette citation que j'emprunte à Edgar Morin, qui a écrit « Homo sapiens, c'est aussi homo demens, qui se reconnaît non seulement au cerveau et à l'outil, comme on le disait auparavant, non seulement au langage, comme on le dit aujourd'hui, mais aussi à la magie, au mythe et au traumatisme que la mort inflige au plus intime de sa conscience. » Alors, c'est vrai qu'on a tendance peut-être à réduire les compétences cognitives à une sorte de technicité, d'instrumentalité. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue ces autres dimensions, dont évidemment, l'approche expérimentale chez l'animal tient lieu du prodige. Mais pour terminer, je voudrais dire que ces recherches et ces interrogations sur les processus cognitifs des animaux, finalement, sont, je crois, très importantes parce que, à partir du moment où le comportement n'a pas laissé de traces fossiles, on n'a aucun moyen de savoir, par exemple, comment les espèces qui sont proches de nous, voire les espèces préhominiennes, ont évolué. Et donc, on est devant la nécessité, finalement, de faire des modèles. Alors, ces animaux qui sont ceux d'aujourd'hui, ne sont pas évidemment un témoignage de notre passé, mais c'est un modèle possible de celui-ci qui devrait nous permettre de mieux comprendre notre origine phylogénétique. Je vous remercie.
Merci à Jacques Vauclair, merci d'avoir été si ponctuel. Nous allons maintenant passer à la traditionnelle séance de questions. Merci de vous lever lorsque vous poserez votre question pour qu'on vous voit bien. J'ai une première question là-bas au monsieur.
Oui. Ça marche ? Oui. Je voulais vous demander où est-ce qu'on en est concernant les études sur la théorie de l'esprit des chimpanzés, notamment leur capacité à mentir ou à tromper.
Oui, je vous remercie. C'est une question qui est importante. Des travaux ont été réalisés il y a quelques années sur ce qu'on appelle l'attribution de croyances, en particulier sur la capacité qu'aurait un chimpanzé, puisque ça a été essentiellement réalisé avec les chimpanzés, de savoir qu'un autre sait ou ne sait pas à propos d'une situation. Alors, je dois vous avouer qu'il y a eu un engouement très, très important, très, très fort pour ce type de recherche. Et depuis quelques temps, on a l'impression qu'on n'est pas très satisfait parce que, comme le disait Prémac, il y a un challenge fantastique pour réaliser ce type d'études. L'image qu'on peut utiliser, c'est que les chimpanzés, par exemple, que je vous ai montré jusqu'à présent, les exemples que j'ai cités, finalement, ça revenait à s'intéresser aux chimpanzés physiciens, à celui qui résout des problèmes, qui empile des caisses pour aller décrocher des bananes. Donc on était dans des cas de résolution de problèmes relativement faciles. Quand on s'intéresse à la théorie de l'esprit, eh bien, ce chimpanzé qui était physicien doit devenir un chimpanzé psychologue, si vous voulez. C'est-à-dire que la question n'est plus de savoir si les chimpanzés ont des représentations, j'espère que vous êtes tous convaincus que c'est le cas, mais la question c'est de savoir si les chimpanzés sont capables de prêter des représentations, d'attribuer des représentations aux autres. Et donc ce challenge formidable, c'est un challenge expérimental. Essentiellement, les recherches qui ont porté dans ce domaine sont contestées quant à l'interprétation de l'attribution de savoir. Finalement, toutes les situations qui sont utilisées ne permettent pas de décider de manière définitive si finalement les chimpanzés n'analysent pas la situation à partir d'observables, à partir de détails, ou si vraiment ils l'analysent au sens où nous, humains, et en particulier l'expérimentateur, souhaiteraient qu'ils le fassent, c'est-à-dire en termes réels d'intentionnalité.
Une autre question là-bas, monsieur.
Je voulais demander, lorsque vous faites vos expériences, est-ce que vous avez pu établir une cartographie du cerveau des animaux en question ?
Nous ne l'avons pas fait directement, mais bien entendu, il serait intéressant, dans le contexte, par exemple, de la tâche de rotation mentale que j'exposais tout à l'heure, qui se fait très vite, de la réaliser dans un système de type imagerie cérébrale fonctionnelle qui permettrait de voir quelles zones du cerveau sont particulièrement sollicitées, activées pendant la réalisation de cette tâche. Pour des raisons diverses et variées, il est difficile dans ce pays, tout au moins, de faire de l'imagerie cérébrale avec des singes qui ne sont pas endormis. Et donc, ça n'a pas été fait, mais c'est un projet qui est effectivement intéressant et qu'il faudrait un jour que quelqu'un conduise.
Madame ?
Oui, bonjour monsieur. Je ne suis pas du tout calée en linguistique, mais sur les expériences qui ont été faites avec Kanzi, par exemple, je voulais savoir où se place au niveau du langage l'expression de l'émotion. Parce que, fonction impérative et déclarative, il me semble me rappeler avoir entendu des séquences qui exprimaient une émotion pure face à l'autre, à l'interlocuteur, l'expérimentateur, et qui n'avait rien à voir avec une demande de nourriture ou de récompense quelconque, à savoir moi triste, toi pas content.
Ce que vous décrivez là, c'est très pertinent, sauf que on n'a pas réussi, quel que soit le médium utilisé, un système gestuel ou un système de symboles graphiques, à ma connaissance, on n'a pas réussi à apprendre justement les mots que vous venez d'utiliser. Je n'ai jamais vu, sinon dans un contexte d'imitation directe, mais un chimpanzé qui allait justement traduire ses états intérieurs. De même qu'on n'a pas réussi d'ailleurs à leur apprendre des mots pourtant très intéressants sur éventuellement « mère de », peut-être « frère de », peut-être « allié de », etc. Tout un, finalement, le contexte d'apprentissage, il est essentiellement dans une zone qui concerne des mots, des qualificatifs d'objets, d'actions, qui sont complètement instrumentalisés. Et donc, ce que vous décrivez, c'est idéalement le genre de production, effectivement, qu'on pourrait attendre, mais encore une fois, le médium n'était pas disponible.
Pressant quand même un facteur émotionnel très intense chez les animaux. Je crois que personne n'en discute.
Je pense que vous avez raison, et je pense que mais l'émotionnalité dont vous faites part ne passe pas forcément par le déclaratif. Avant que l'enfant ne maîtrise le langage, il va s'exprimer à travers tout un système de manifestations, de cris, de sourires, toute une gestuelle qui est, je dirais, qui n'a pas besoin d'un code spécifique. Et vous avez raison, nous le partageons en grande partie avec l'animal. Darwin, dans son livre « L'expression des émotions chez l'animal et chez l'homme », a montré d'ailleurs cette continuité entre les émotions dans leur expression relativement pure et la façon dont elles ont évolué au cours de l'histoire des espèces. La compréhension non verbale de...
La perception non verbale de l'expression non verbale des émotions de l'autre.
Ah oui, ça c'est sans doute vrai, oui. C'est un autre débat.
Je voulais vous demander si on a essayé d'apprendre des phonèmes aux singes. Ceci dit, parce que finalement, le phonème en lui-même ne sert à rien, et ce qui sert, c'est la production de phonèmes divers, et les uns après les autres. Alors, est-ce qu'on a essayé d'apprendre des phonèmes, autrement dit, des choses qui n'ont aucun intérêt immédiat? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que vous pensez que c'est, au point de vue phylogénétique, c'est les buts qui créent les moyens, ou bien c'est les moyens qui permettant d'atteindre des buts, se pérennisent chez l'animal?
Oui, alors sur la question de l'apprentissage de phonèmes, non, à ma connaissance, il n'y a pas de tentative. Il y a des tentatives, en revanche, qui ont visé à apprendre des mots. L'exemple historique est celui de ce couple de chercheurs américains, les Hayes, qui ont élevé un jeune chimpanzé à la maison, et après de longues années d'apprentissage, ce chimpanzé a pu péniblement articuler les mots up, haut, cup, pour le bol, et je crois que c'est tout. Donc, je veux dire, vous voyez que c'était relativement limité comme capacité d'acquisition. C'était d'ailleurs des phonèmes, presque. Hein. Mais si vous voulez, le challenge, il y a vraiment là une espèce d'extraordinaire handicap. On l'a vu tout à l'heure, je l'indiquais, les capacités phonatoires sont si différentes que cette voie de vocalité n'est certainement pas la bonne. Ce qui me fait penser, et c'est aussi pour répondre à votre deuxième question, qu'il y a un paradoxe. On a cité le cas de Kanzi tout à l'heure, ce bonobo un peu sophistiqué. Eh bien, Kanzi, il a d'excellentes compétences pour comprendre l'anglais. Vous me direz, beaucoup d'animaux comprennent... On prétend qu'un chien peut comprendre jusqu'à 70 mots, par exemple, ce que je suis prêt à croire. Mais Kanzi, lui, comprend plus que ça. Et on teste sa compréhension, par exemple, lorsqu'on lui a proposé une phrase du type « Tu vas dans le réfrigérateur, tu prends les tomates et tu les poses sur la table. » Donc, lorsqu'on lui donne cette séquence en anglais, eh bien, Kanzi la réalise avec précision, alors qu'il y a des tomates ailleurs que dans le réfrigérateur. Donc, il a compris et décodé la séquence. Et ce qui est surprenant, et ce qui, moi, me gêne, c'est justement ce décalage qu'il y a entre les capacités de compréhension, qui sont équivalentes, ça a été testé par plusieurs chercheurs, qui sont équivalentes à celles au niveau de la compréhension d'un enfant de 2 ans. Mais, en revanche, cette relative facilité de la compréhension ne se traduit pas au niveau de la production, justement, et donc là, il y a quelque chose qui est un peu surprenant et qui est peut-être dû au caractère artificiel dans lequel les expériences ont lieu, qui sont toujours alors très finalisées. Il y a toujours un but à atteindre avec une récompense qui suit. Il ne faut pas oublier que toutes ces recherches sont basées sur des principes behavioristes de renforcement, ce qui d'ailleurs ne me choque pas parce que je pense que nos échanges à nous humains aussi sont basés sur des principes de renforcement. On ne se contente pas de la boulette de nourriture, mais nos renforcements sont sociaux et il n'y a pas de raison a priori de penser que ce soit fondamentalement différent. C'est vous qui le dites, mais on pourrait dire ça de façon imagée.
Bon, le problème que je pose est le suivant. Un cochon d'Inde que j'élève chez moi a développé une cataracte à l'âge de 3 mois et a mis au point des stratégies d'évitement de la gêne oculaire qui sont meilleures que ceux que moi j'ai développées pour un problème de rétine à l'œil gauche. Et en utilisant ces mouvements que j'ai symétrisés, j'ai constaté que c'était mieux que ce que moi j'avais trouvé. Alors je voulais savoir ce que l'on peut en penser sur si c'est une réaction intelligente ou instinctive.
Je ne sais pas, il faudrait voir le contexte. Je pense que dans des situations où il faut développer un comportement aversif, la plupart des espèces animales apprennent très vite. En un essai, par exemple, ils sont capables d'éviter une situation nocive, nociceptive.
Une question de monsieur.
Oui. J'aimerais savoir, qu'en est-il chez les animaux du sens esthétique? Est-ce que les animaux ont le sens du beau? Je pense par exemple aux stratégies de séduction pour l'accouplement, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été étudié chez l'animal?
C'est pas tout à fait mon rayon, mais je peux vous répondre. À mon avis, le sens du beau, ça n'a rien à voir avec les stratégies de séduction que vous appelez séduction, mais qui sont en fait des stratégies de reproduction. C'est-à-dire qu'il faut toujours ramener les choses à leur finalité biologique. Et je crois que c'est à tort, c'est par une sorte de biais de réaction anthropomorphique qu'on interprète, par exemple, des comportements entre les mâles font beaucoup d'efforts pour attirer les femelles dans la plupart des espèces animales, et dans l'espèce humaine aussi d'ailleurs, peut-être pour d'autres raisons. Ces comportements sont là pour valoriser le pool génétique. Et je veux dire, c'est nous, humains, qui leur plaquons un discours où on va mettre du beau et du lait, etc. Alors, sur un autre plan, vous avez peut-être vu des productions spontanées graphiques qui ont été réalisées par des primates. Il y a un exemple célèbre en Autriche d'un orang-outan qui, paraît-il, se mettrait à faire de la peinture post-moderne. Bon, je veux dire, c'est bien. Votre chat, si vous lui mettez de l'encre sur les pattes, va aussi vous faire des peintures et que vous pourrez après interpréter comme vous voudrez. C'est le propre de l'homme d'interpréter, justement, de mettre du sens et pourquoi pas en mettre sur les productions graphiques d'un orang-outan, mais il faut à ce moment-là être conscient que c'est nous qui mettons le sens et pas l'orang-outan.
On va prendre une dernière question de madame là-haut.
Oui, bonsoir, je voudrais savoir dans quelle mesure on pourrait parler d'une conscience chez l'animal et dans quelle limite de développement et d'espèce.
Ah, où êtes-vous là? Je ne vous vois pas. Ah, là-bas, oui. Bonne question. En deux mots, il y a, je crois, la conscience, c'est une question complexe. La définition de la conscience, c'est encore plus difficile. Je pense qu'on aurait intérêt à reconnaître différents niveaux. Et de ce point de vue-là, vous êtes sans doute informé de l'existence de comportements qui ont été obtenus chez des chimpanzés qui ont manifesté une reconnaissance de leur image spéculaire. Autrement dit, avec un test qui a été développé par un psychologue américain qui s'appelle Gordon Gallup, le test dit de la tâche, et qui consiste à, sous anesthésie, on va mettre sur la paupière, par exemple, du chimpanzé, une marque rouge. Ce chimpanzé ayant été préalablement exposé à un miroir, et on va ensuite, à son réveil, le mettre à nouveau devant le miroir, et Gallup a constaté, ça a été répliqué depuis, que les animaux qui avaient la tâche passaient beaucoup de temps à explorer cette zone. On s'est évidemment assuré que cette tâche n'avait pas un repérage olfactif, que c'était vraiment en fait une réaction à la tâche en tant que telle, en tant qu'elle avait changé la représentation du visage, du faciès, du chimpanzé. Et certains n'ont pas hésité à interpréter ces comportements comme étant les indicateurs d'une conscience de soi. Je pense, petite précision, seuls les chimpanzés, les orang-outans dans une moindre mesure et les gorilles réagissent à la tâche dans le test de Gallup. Les autres espèces testées, et on en a testé de nombreuses, jusqu'à l'éléphant, figurez-vous, apparemment ne sont pas gênés, entre guillemets, par la différence dans leur look, si je puis dire. Alors, qu'est-ce que ça indique finalement? Est-ce qu'on a le droit d'appeler ça de la conscience de soi? Moi, je pense que je serais plus prudent et je dirais qu'on peut conclure que les chimpanzés, en l'occurrence, ont une représentation de leur corps et en particulier de leur visage. Alors peut-être qu'avoir une représentation de son corps, c'est une première étape, un premier niveau vers la conscience, au sens fort où sans doute vous l'entendez. Je conclurai donc prudemment qu'on a là des prémices, mais pas vraisemblablement pas justement une conscience, parce qu'on n'a pas de langage, parce qu'on n'a pas d'intentionnalité et parce qu'on n'a pas de théorie de l'esprit. C'est d'ailleurs, si vous permettez, un petit mot, la théorie de l'esprit, le fait d'attribuer à l'autre des croyances, des représentations, ça explique aussi pourquoi les animaux ne font pas de pédagogie. Pour faire de la pédagogie, pour apprendre aux autres, pour enseigner, il faut prendre conscience que les niveaux de connaissance sont différents. Or, si vous ne savez pas ce que l'autre sait ou ce que l'autre ne sait pas, vous ne pouvez pas rétablir ces niveaux de connaissance, vraisemblablement. Et du coup, l'apprentissage social, en particulier chez les animaux, ne se fait pas par enseignement, mais se fait essentiellement par observation, le simple fait d'être exposé pour un jeune, par exemple, à un adulte compétent. Et donc, cette situation d'exposition, d'observation de l'adulte compétent est suffisante pour acquérir le comportement sans que celui-ci soit, comme c'est le cas chez l'homme, modelé finalement par l'environnement, par l'entourage, et en particulier, pour ce qui est des enfants, par la mère. Oui, vous avez raison. Si vous voulez, je pense qu'il ne faut, il faut pas avoir un biais et favoriser une espèce au détriment d'une autre. Je crois que les oiseaux ont des comportements très intéressants. Alors, je ne vous suivrai pas, parce que je ne connais pas. Mon attitude, c'est... on raconte beaucoup de choses à propos des animaux. Moi, je ne suis pas là pour faire la chronique de tout ce qu'on raconte. Je suis là pour faire un état des lieux sur les recherches qui sont conduites selon des critères scientifiques. Cela dit, les oiseaux ont... Ce sont des paradoxes un peu sur le plan évolutif, puisque c'est des tout petits cerveaux qui réalisent des prouesses extraordinaires. Par exemple, en termes de capacité de mémoire, vous savez que certains oiseaux stockeurs, par exemple, comme la mésange, peuvent stocker jusqu'à 1000, 2000, 3000 objets dans des endroits dont ils semblent se souvenir de la plupart. Alors, je pense que leur compétence, là, dépasse, sur le plan strictement de la performance, celle que nous pourrions faire. On sait maintenant, d'ailleurs, qu'elles sont possibles parce qu'elles ont un hippocampe, qui est la structure nerveuse sans doute responsable de la mémoire, qui a la chance de grossir, en quelque sorte, par exemple à l'automne, et puis au printemps, il se vide. Donc si vous voulez, ça permet de stocker beaucoup d'informations qui ne sont plus utilisées. Et donc, il y a une sorte de rafraîchissement qui se fait. Et bon, c'est intéressant, mais je veux dire, il y a une explication à ces prouesses qui, à mon avis, ne change pas fondamentalement l'idée que je défends sur le plan des processus cognitifs qui sont partagés par ces espèces.
Fini maintenant. Merci.